France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et en direct donc des rencontres de l'histoire de Blois, avant de parler d'histoire, comme tous les samedis, on revient sur l'actualité avec tous les deux, Natacha et Raphaël, et on va démarrer avec l'attente, la si longue attente d'un remaniement. C'était jeudi, le Premier ministre était dans sa bonne ville du Havre, il s'est fait poète et il a confessé un trait de caractère.
La mer, atteinte sans hâte, et jamais maîtrisé. Je suis toujours impressionné par ce que dit Fernand Braudel et toujours d'accord avec lui. J'avais particulièrement hâte aujourd'hui, même si l'impatience n'est pas dans ma nature, comme vous avez pu le constater.
Le Premier ministre qui cite Fernand Braudel, nous avions envie de diffuser cet extrait. Et est-ce que vous faites partie des impatients tous les deux, Natacha ?
Je pense qu'il faut cesser avant tout de commenter le vide. Et je pense que les journalistes cette semaine ont donné, hélas, l'image de ce qu'est la société du spectacle, et en l'occurrence du spectacle politique. Il fallait allumer les chaînes d'information continue pour comprendre en quoi nous sommes entrés dans un jeu profondément malsain, dans lequel...
Pourquoi malsain ?
Parce que vous aviez des commentateurs qui en arrivaient à expliquer que le président de la République, finalement, pour prouver qu'il était maître du temps, puisque c'est maître des horloges, c'est la grande expression dont se gargarisent beaucoup de commentateurs, pour rester maître des horloges, devait attendre que les commentateurs aient fini de commenter pour faire exprès de leur dame et le pion. C'est-à-dire que des journalistes parlaient de leur propre rôle comme s'il était essentiel dans le choix du président et expliquaient que finalement, ils étaient en train de parler, mais que s'ils se taisaient, il se passerait enfin quelque chose. Donc, l'absurdité la plus totale.
Raphaël.
Là, je suis en grande partie d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une question de personnel politique. Si ça avait été une question de personnel politique, du nom de la personne qui occupe un ministère, nous aurions aujourd'hui une transition énergétique et écologique assumée, puisque qui mieux que Nicolas Hulot pouvait mener le pays sur la voie de la transformation écologique ? Et même Nicolas Hulot, qui est pourtant la personne donc idéale pour occuper une telle fonction, n'y arrive pas. Donc c'est un problème de...
Il reviendra peut-être.
De ligne politique, j'en doute sincèrement. Mais c'est un problème de ligne politique et donc le débat devrait porter plutôt que sur une attente de qui sera nommé où, un débat sur la ligne politique qui est incarnée. Et à mon avis, dans la crise que vit actuellement la Macronie, il y a plus qu'une histoire de personne, il y a une histoire de cohérence politique, d'horizon politique, et donc c'est de ça qu'on devrait parler.
On devrait parler aussi peut-être, et c'est quelque chose qui vous a frappé, de la différence de popularité entre le Premier ministre et le Président de la République. Ça, pour le coup, Raphaël,
oui,
ça vous étonne ?
Je pense que le choix qui s'imposera à Emmanuel Macron, si ça continue comme ça, c'est de nommer Édouard Philippe à chaque ministère, parce que il y a un réel paradoxe qui est intéressant à creuser. Je veux dire, un homme a créé un parti sur son seul nom, en mettant même ses initiales au principe de ce parti En Marche, Emmanuel Macron. Et il y a eu une volonté affichée de restaurer la verticalité et de montrer que tout partait de l'Élysée. Moi, je pense que c'est fondamentalement erroné comme approche de la politique. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut constater, c'est que ça ne fonctionne pas. Et que la personne qui était censée être effacée devient aujourd'hui le roc de ce pouvoir macronien. Et ça pose une question de fond, en fait, à l'approche de la politique qui était celle d'Emmanuel
Mais
Macron,
Raphaël,
par
si ça ne fonctionne pas, c'est parce que derrière cette verticalité, il y a avant tout une conception qui est celle de la mort du politique.
Oui.
C'est-à-dire que derrière cette verticalité et l'appui sur la personnalité d'un homme, il y a l'idée que ce qui compte n'est pas le choix des citoyens, mais la bonne gouvernance. C'est-à-dire ce fantasme selon lequel il n'y aurait en fait qu'une seule politique possible qui serait la bonne. On est dans la droite ligne d'ailleurs de tout ce qu'on prenait ceux qui ont petit à petit dérégulé l'économie, que ce soit Bill Clinton, Tony Blair qui expliquait que il n'y a pas plusieurs politiques, il n'y a qu'une politique, c'est celle qui marche. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'alternative, et ce n'est pas un hasard si c'était la phrase mise en exergue de la première interview d'Emmanuel Macron quand il est arrivé au ministère de l'économie. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, il est sur cette ligne qui est la ligne de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'une seule bonne politique, c'est celle qui répond aux besoins de l'économie, et du coup, il n'y a pas besoin de démocratie, il n'y a pas besoin de personnel politique, il y a une administration et une bonne gouvernance.
Et il y a,
Raphaël.
Oui, il y a une esthétique de la politique plutôt qu'un contenu de la politique. Vous savez, Emmanuel Macron a théorisé le fait que ce qui hante la France, c'est la disparition de la figure du roi. On aurait pu aussi théoriser que ce qui hantait la France, c'était la disparition d'un projet républicain plutôt que de la figure du roi. Et donc, quand on veut...
Le public de Blois, très attentif dans une ville aussi marquée, justement, par l'histoire de la royauté.
Non, mais quand on ne veut pas, justement, avoir un contenu de transformation sociale dans sa politique, quand on dévalorise, et c'est vrai, le fait politique en tant que tel, il nous reste une esthétique du pouvoir, une esthétique. Donc, le pouvoir est censé se mettre en scène, d'autant plus qu'il transforme moins la société. Roosevelt ou Léon Blum n'avaient pas besoin de faire semblant d'être Jupiter pour être respectés. Ils incarnaient un projet. Voilà. Donc, il y a ça. Mais il y a, et là-dessus nous accordons, il y a autre chose aussi, c'est cette approche française qui revient très souvent, qui est celle du sauveur, qui est celle de l'homme providentiel, et qui est celle d'institutions qui ont été taillées pour un homme qui était réellement providentiel, le général de Gaulle en 1940, puis quand il y revient au pouvoir. Et je pense que cette vision-là ne correspond non seulement plus à la société française telle qu'elle est, mais en plus... elle ne correspond plus au type de personnel politique que nous avons.
Elle correspond d'autant moins que le général de Gaulle a forgé ses institutions parce qu'il concevait la souveraineté comme intrinsèquement liée à la démocratie. C'est-à-dire que son idée était qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté du peuple et sans souveraineté de la nation. Il a donc forgé des institutions dans lesquelles le président gouvernait et décidait comme étant une émanation de la volonté du peuple. Ce qui n'est plus le cas puisque nous avons des politiques qui ont décidé que l'économie prévalait et que donc ce n'était pas la volonté du peuple qui prévalait. Ça ne peut plus fonctionner.
Oui, nous sommes d'accord, mais un peuple souverain n'a pas nécessairement besoin d'un roi. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une incarnation unique comme le général de Gaulle le pensait.
Non, c'est un choix comme un autre.
Un choix comme un autre, mais les partis politiques sont mortels. Est-ce que le Parti Socialiste est victime de cette loi ou non ? C'est un autre sujet, oui, politique et historique. Le PS qui quittait hier son siège de la rue de Solferino à Paris au moment où l'un des chefs de file de la gauche du parti annonce qu'il claque la porte, j'y arrive, et la fin d'une histoire vieille de 40 ans. Natacha Polony, c'est maintenant à reléguer aux oubliettes et aux livres d'histoire le Parti Socialiste.
En effet, les partis politiques sont mortels. La SFIO est morte. Elle a été remplacée par ce cycle qui a vu le congrès d'Épinay, puis l'aboutissement ultime qui est aujourd'hui, en effet, la disparition de ce parti par des forces centrifuges. Ça nous raconte qu'en fait, ces forces centrifuges étaient à l'œuvre depuis longtemps et pour ma part, je pense qu'elles étaient à l'œuvre depuis le moment où le Parti Socialiste a été incapable de penser ce qu'était le néolibéralisme. Ça remonte en fait à la fin des années 70, puis en France, au tournant de 1983, le moment où François Mitterrand renonce.
Ah oui, donc
où
le il PS choisit... a mis du temps à mourir.
Bien sûr, mais un parti met toujours du temps à mourir. Mais la contradiction était dans les termes, puisque à ce moment-là, il décide, lui aussi, qu'il n'a plus de prise sur l'économie. Et nous voyons la fin de cette queue, puisque finalement nous n'avons eu jusqu'à présent que des leaders du Parti Socialiste qui essayaient de cacher cela et de faire semblant de s'adapter. Ça a été toute l'histoire de la social-démocratie qui était en fait social-libérale, puis libérale-sociale, et qui a accepté la dérégulation.
Raphaël Glucksmann.
En fait, c'est la fin de l'alternance classique gauche-droite. Pendant très longtemps, le Parti Socialiste, on pourrait dire la même chose honnêtement des partis de droite, n'avait pas besoin de formuler des idées, de formuler un horizon de transformation, d'avoir un projet collectif mobilisateur, puisqu'il suffisait d'attendre en réalité...
L'alternance était mécanique.
L'alternance était mécanique. Ce qui a explosé aujourd'hui, c'est le fait de l'alternance mécanique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est l'alternance à Emmanuel Macron. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de logique dans la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce qui est à la fois extrêmement inquiétant, si on est honnête, parce que l'alternance pourrait être quelque chose qu'on trouve dangereux, réellement dangereux pour les institutions démocratiques, pour la construction européenne, pour notre univers démocratique dans son ensemble, mais c'est aussi une opportunité de repenser à nouveau, de retourner à la bibliothèque, de retourner écouter les gens qu'on a délaissés sur le bord des chemins. C'est l'opportunité de refonder. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, les partis sont mortels, que les structures, les superstructures sont mortelles. Ce que j'espère ne va pas mourir, c'est cette aspiration qu'on a longtemps appelée la gauche et dont on proclame aujourd'hui qu'elle n'est plus un terme qui colle à l'époque, mais qui est une aspiration à redonner à la politique un pouvoir sur les structures sociales, c'est-à-dire l'idée que la cité, dans son ensemble, peut inverser des structures de domination. Donc c'est cette aspiration-là, moi, que j'espère.
Comme s'il y a EM Emmanuel Macron en marche, il y aura peut-être RG, Raphaël Glucksmann, le Rassemblement de la gauche. On ne sait pas.
Encore. Ce serait sans doute une possibilité.
Si jamais je crée un mouvement et que je mets mes initiales, j'autorise à me fusiller sur le champ.
Non, nous sommes
très
pacifiques.
Mais je pense que la gauche, disons, est un idéal et il s'agit de le redéfinir parce que cette gauche, ce terme gauche, s'est confondu avec des partis de gouvernement ou d'ailleurs d'autres partis contestataires sans que jamais on ne redéfinisse réellement ce qu'était l'aspiration au progrès.
Mais vous êtes d'accord
encore, on ne redéfinit pas
Raphaël
le progrès. Glucksmann
est d'accord de l'avis de décès qui remonterait à 1983 ou est-ce que c'est le traumatisme de 2017, Raphaël ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas un avis de décès unique. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le logiciel du Parti Socialiste et de la gauche n'a pas du tout appréhendé ce que faisait la logique néolibérale dans les sociétés occidentales, qu'elle n'a pas compris la société de solitude.
Ah oui, donc vous êtes d'accord avec
Natacha. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres moments. Il y a aussi la défaite de ce qu'on a appelé la deuxième gauche face à François Mitterrand.
Mais c'est cela, justement. C'est-à-dire qu'elle a gagné dans les faits et du coup, on aboutit à l'échec absolu de cette politique. 1983, c'est la victoire de la deuxième gauche qui a tué...
Non, pas du tout. Mais là, si on a une différence d'interprétation immense, la deuxième gauche, c'était
apparemment
pas
une différence d'interprétation qui se retrouve aussi dans le public qui nous accompagne ici.
La deuxième gauche, Natacha, la deuxième gauche, c'est pas l'adaptation au libéralisme. La deuxième gauche, c'est l'idée qu'on peut faire confiance aux gens pour organiser leur existence. C'est l'idée que la verticalité monarchique que s'est appropriée la gauche quand elle a pris le pouvoir n'est pas nécessairement la forme qui convient pour un peuple adulte. La deuxième gauche, c'était aussi l'idée d'être en phase avec la décolonisation que François Mitterrand n'avait pas compris. L'idée d'être en phase avec les mouvements de la société, l'idée d'être en phase avec les transformations sociétales qui ont émergé. Et donc, cette idée-là de la deuxième gauche, c'était pas une conversion au thatchérisme. Quand on reprend les projets...
Dans les faits, et là, c'est devenu ça. Et d'ailleurs, parmi les...
Mais c'est intéressant de voir qu'on puisse reprocher, par exemple, à François Hollande la verticalité monarchique. Alors que
oui, mais ça, c'est autre chose. Lisez le livre de Rozan Vallon, qui essaye d'explorer, qui prétend explorer l'histoire de la gauche. Il y a quelques rares moments de contrition et d'autocritique. Et par exemple, cette idée que la deuxième gauche... hélas, prônait l'autogestion et qu'on est passé à la pure gestion. Ouais. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que l'idéal de la deuxième gauche s'est abîmé dans l'acceptation du néolibéralisme. Et tous ceux qui incarnaient ce mouvement ont été incapables de lutter contre la dérégulation qui était en route, en fait, aux États-Unis à partir de 71 et à partir de la fin des accords de Bretton Woods et qui se traduit par l'arrivée de Reagan et Thatcher.
Et d'un mot, on va changer de sujet, Raphaël. Ouais,
bien sûr qu'il y a un travail critique à faire sur notre propre logiciel. J'ai même écrit un livre qui explore cela, c'est-à-dire que l'idée que finalement notre approche a été incapable de faire face au néolibéralisme, que l'idéologie des droits de l'homme ne suffit pas, que l'idéologie de conquête de nouveaux droits ne suffit pas, qu'il faut une inscription dans des structures collectives. Et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, parce que sinon, les dirigeants de la gauche, ou les penseurs de la gauche, ou les intellectuels de gauche vont ressembler à ces curés qui voient les bancs de leurs églises se vider et qui vont blâmer qui vont voir la preuve qu'ils ont raison de blâmer la terre entière dans la désertion des fidèles.
C'est un petit peu ce qui se passe. C'est sans doute la limite. Et vous êtes un des rares à essayer de réfléchir à ça, c'est-à-dire à cette articulation entre l'individuel et le collectif.
Mais c'est comme ça que ça va revenir.
Mais bien sûr, parce que pour l'instant, cet équilibre-là n'a pas été trouvé. Et on est justement dans une phase d'extension infinie des droits individuels qui abolit toute possibilité de forger une communauté politique.
Alors justement, à propos de droits individuels, il y a eu dans l'actualité et cette semaine un sujet passionnant, un sujet de débat qui concerne la société tout entière. C'est la parution de ce livre signé Marc-Olivier Fogiel, « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?», livre où Marc-Olivier Fogiel parle de ses filles, nées par le recours à la GPA. Marc-Olivier Fogiel qui était l'invité d'Ali Rebéi dans « Grand bien vous fasse » mercredi sur France Inter.
C'est l'évidence que ces enfants doivent être protégés. C'est un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression que on réfléchit beaucoup à la façon de...
pose les termes du débat, Natacha Polony.
C'est-à-dire qu'il pose les termes tels qu'il veut les poser, c'est-à-dire uniquement du point de vue individuel. Et c'est sans doute la traduction de ce qui, de l'idéologie qui est à l'œuvre dans notre époque. C'est-à-dire que finalement, serait bon tout ce qui ne nuit pas à autrui. La question est de savoir ce qu'on définit par nuire à autrui. Que des individus veuillent élever des enfants, mais les avoir aussi de la façon dont Marc-Olivier Fogiel explique qu'il les a eus, c'est-à-dire par mère porteuse, et on va rentrer dans les détails.
Parce que c'est pas mère porteuse, c'est une femme porteuse, voilà. Comme le dit Marc-Olivier Fogiel, c'est-à-dire que les ovocytes n'étaient pas ceux de la femme qui a porté la petite fille.
Exactement. Et on comprend parfaitement quand on entend l'extrait. Oui, il faut protéger ses enfants, puisque ses enfants sont là, ils doivent avoir les mêmes droits, et il faut absolument que la société pense cela. En revanche, nous devons aussi penser ce que signifie le fait de choisir par la technique, par exemple, de dissocier la donneuse d'ovocytes et la femme porteuse pour justement que ce ne soit plus une mère porteuse, pour supprimer cela. Qu'est-ce que cela fait ? Ça ne se règle pas à titre individuel. Dans les choix d'un individu, en effet, cela ne pose aucun problème et on a là une famille qui s'aime
une
et qui a voulu
famille, oui.
Une histoire qui
donc
a voulu
ça ne vous choque pas.
Mais c'est pas que ça ne me choque pas, je ne suis pas là pour être choquée, je suis là pour essayer de comprendre la différence entre la problématique collective, c'est-à-dire la façon dont nous devons concevoir les limites aux droits individuels et l'articulation entre ces droits individuels et la façon dont nous construisons une société.
Et Raphaël.
Et autant sur la PMA, je ne comprends pas, et là je vais être très honnête, je ne comprends même pas, puisque ça ne nuit objectivement pas à autrui, je ne comprends pas les objections, je ne comprends pas les levées de boucliers. Autant sur ce qu'on appelle la GPA, il y a effectivement une question sociale à poser qui est extrêmement importante et qui donc ne peut pas résumer cette histoire à la quête de liberté et de droits individuels. C'est-à-dire que si on autorise cela, quelles vont être les conséquences sociales ? On doit prendre en compte ça quand on prend des décisions. Et est-ce qu'on va avoir des classes sociales qui seront vouées à être des ventres ? Et finalement, comment au nom de quelque chose que moi je comprends tout à fait, qui est un droit individuel, un désir individuel, on va aboutir à une stratification sociale désastreuse pour la cohérence de nos principes communs.
Mais il n'est pas question d'inscrire la GPA dans la loi,
non,
en l'occurrence.
Bien sûr. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça...
C'est la protection de ces enfants qui reviennent en France.
Mais pour moi, la protection de ces enfants, c'est absolument clair. Je veux dire, là, on va même pas avoir de débat, je pense, entre nous ici, sur cette question.
Donc, en revanche, le problème qui se pose est le fait que aujourd'hui, nous sommes dans une période où le fait dicte le droit, c'est-à-dire au nom du fait que tout cela existe et est possible dans d'autres pays, on explique que le droit en France serait en retard et qu'il faudrait donc adapter. Mais le droit ne doit jamais être dicté par le fait. Le droit doit être dicté par des principes collectifs qui sont délibérés en commun.
Après,
qui
il faut bien répondre à certaines situations et
commun.
À certaines donc, familles qui se composent
donc,
d'une
répond,
manière inattendue. Ou
on répond au fait en protégeant, mais après, on réfléchit à deux dimensions. La dimension sociale dont parle Raphaël, c'est-à-dire le fait qu'évidemment, on va aller vers une différenciation sociale, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on aura des femmes riches qui prêteront leur ventre, on pourra se dire que c'est peut-être quelque chose d'altruiste, mais curieusement, ça n'est pas le cas. Et il y a le deuxième fait qui est l'utilisation de gamètes comme matériaux génétiques, c'est-à-dire et la dissociation entre ce matériau génétique, celle qui porte l'enfant, et ça, c'est encore une autre problématique plus complexe.
Encore un mot, Raphaël, sur le sujet.
Alors, juste sur le fait qu'il ne dicte pas le droit, c'est seulement vrai en partie, c'est-à-dire que le droit doit forcément, dans sa formulation, intégrer les évolutions de fait d'une société. Et donc, c'est un débat qui est extrêmement complexe, et on doit encore une fois, on l'a déjà fait à ce micro, saluer le fait qu'en France, ce débat-là est un débat public, républicain, non pas dicté par le marché, mais dicté par la volonté générale.
Et passionnant en l'occurrence, et il est posé donc cette semaine avec ce livre signé Marc-Olivier Fogiel. On va en rester là pour les questions d'actualité, vous restez tous les deux à mes côtés pour accueillir maintenant notre invité.